Oui, donc Dadi Diallo, après nous avoir mis à l'épreuve pendant 9 mois, sans doute pour être sûre que je n'étais pas une personne velléitaire, mais que je voulais vraiment soulager les malades, après 9 mois est venu, on l'a installé dans un village à côté de Dakar, et l'enseignement a commencé. Mais il ne faudrait pas croire que je me suis installée dans mon bureau et que le grand maître venait me dicter des recettes. Le grand maître avait dit à Yoruba, Madame est docteur, elle est professeure à l'université, pour moi elle n'est rien, elle n'est qu'un disciple, qu'elle dépose le boubou de ses connaissances, pour moi elle ne connaît rien. Bon, c'était sévère. Et la première chose que nous avons faite, c'est d'aller en brousse pour récolter les plantes. Donc, nous sommes allés dans une forêt qui était réputée, la forêt de Bandia, et nous avons récolté les premières plantes. Mais Dadi Diallo ne m'a donné que les noms des plantes en langage poulard. Et il ne m'a pas dit à quoi ça servait, ni comment on les préparait. Donc, on a fait plusieurs sorties, et quand nous avons eu accumulé suffisamment de plantes, il a commencé à me dire, voilà. Avec telle et telle plante, nous allons faire le traitement du début de la maladie. Et nous avons donc préparé le matériel, des grandes marmites en émail, enfin tout ce qu'il fallait, et nous avons commencé le traitement du début. Ensuite, il a fallu, lorsque les médicaments étaient prêts, les premiers médicaments, il m'a dit, il nous faut des malades. Et je lui ai dit, mais où est-ce que nous allons les mettre? Il m'a répondu, c'est votre affaire. Alors, avec Yoruba, nous avons d'abord loué des maisons dans des villages environnants. Et nous avons commencé le traitement avec les premiers médicaments, qui s'avéraient d'ailleurs très bons. Mais les populations locales ne nous ont pas supportés. Et on a chassé les malades en jetant des cailloux sur les maisons. Donc, il a fallu déménager. Et de déménagement en déménagement, on a fini par trouver une maison isolée à côté du village de Kermassar, en pleine brousse, où là, on ne dérangeait personne. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de l'hôpital traditionnel de Kermassar, appelé d'abord le centre de soins antilépreux.
D'accord.
Oui. Oui, nous avions donc loué des maisons, dont on a été chassés, mais j'avais loué ces maisons avec un reliquat d'argent que m'avait donné le président Léopold Sédar Senghor pour mes recherches sur la lèpre. Le président Senghor m'avait toujours soutenu et grâce à lui, j'ai pu mener à bien mon travail. Mais ce reliquat, il commençait à s'épuiser et il n'y avait aucune ressource en vue. Et je disais à Yoruba, nous allons être obligés de renvoyer les malades après avoir simplement commencé le traitement. Nous étions désespérés. Et il est venu nous voir, un journaliste ami de Yoruba, qui nous a dit, mais allez donc voir un frère qui était à Caritas Sénégal, peut-être que lui aura des projets qui vous intéresseront. On va voir le frère en question. Et chose providentielle, il nous dit, mais figurez-vous que je viens de recevoir une lettre d'une œuvre allemande d'aide aux lépreux qui demande un projet pour le Sénégal. Faites vite un rapport et je vais l'envoyer à la responsable de cette œuvre. C'était merveilleux. Alors évidemment, je me suis mise à faire le rapport le plus rapidement possible et on a envoyé ce rapport à la dame responsable dans la ville de Bochum en Allemagne. C'était son époux qui avait créé une association pour venir en aide aux lépreux. Alors, la dame en question examine le rapport et il lui a plu. Et elle téléphone à une dame allemande habitant Dakar en lui disant que notre projet était pris en considération. Et la dame allemande nous téléphone à son tour. Quand j'ai entendu que le projet était pris en considération, j'ai été vraiment abattue. Cela voulait dire qu'elle l'avait classée parmi beaucoup d'autres demandes et que probablement lorsqu'elle examinerait notre demande, on aurait déjà renvoyé les malades. Mais, comme je l'ai expliqué dans mon livre, la dame allemande avait mal traduit. En réalité, l'œuvre de Bochum acceptait tout de suite de nous financer. Nous étions sauvés. Et c'est ainsi que le centre de cœur Massar, le centre de soins antilépreux, a pu démarrer et prendre de plus en plus de malades. Alors au début, on n'en avait pas beaucoup. Les lépreux, ce sont des malades difficiles. Ils ne nous faisaient pas confiance et les médecins leur montaient la tête contre nous. Mais petit à petit, il est arrivé des malades venant de l'intérieur du pays et un beau jour, on s'est retrouvés avec plus de 250 malades. Il fallait les nourrir, les loger, acheter les moustiquaires, les traiter, etc. Imaginez un peu le travail que ça représentait. Et en même temps, aller en brousse avec le Dadi Diallo et préparer les médicaments. Donc, un travail extrêmement lourd. Mais nous avions la foi dans ce qu'on faisait. Donc, tout allait bien quand même. Mais il y avait trop de patients et Dadi Diallo ne suffisait plus. Mais par chance, bien par la providence, d'autres thérapeutes réputés dans la lèpre et de grands maîtres avaient entendu parler de nous. La télévision en avait parlé, la radio avait aussi parlé, pour, contre, mais il y avait du bruit autour de nous. Et nous avons eu un jeune thérapeute extrêmement qualifié qui est venu renforcer l'équipe. Puis un autre thérapeute appartenant à une grande famille médicale depuis des générations est venu proposer ses services. Puis un quatrième qui était en Mauritanie et qui suivait notre travail depuis longtemps, et qui trouvait que nous étions très courageux, et que probablement Allah nous avait bénis, est venu proposer ses services. Puis un cinquième est venu, si bien que nous étions ensuite 5 thérapeutes, et moi-même, pour soigner les patients. Et alors, il est évident que j'ai d'abord été formée par Dadi Diallo, c'est mon maître, et j'aimais beaucoup son enseignement, qui était très précis, très logique, très sage. Ensuite, j'ai eu des compléments d'information avec les 4 autres thérapeutes. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour soigner la lèpre, il n'y a pas un traitement, mais il y a des traitements variables suivant les régions du Sénégal. Le Sénégal est très grand, les plantes ne sont pas les mêmes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et les grands maîtres, ils travaillent d'abord avec les plantes de leur région. Donc, j'ai eu la chance d'être formée par Dadi Diallo et ensuite d'acquérir d'autres connaissances auprès de ces maîtres éminents. Mais on ne s'est pas borné à la lèpre. Les patients arrivaient de Dakar et d'ailleurs des environs de l'intérieur du pays pour toutes les maladies. Et c'est là que j'ai pu voir, que j'ai pu constater l'extraordinaire savoir thérapeutique des 5 grands maîtres qui étaient chez nous. Et là encore, vous voyez, il faut savoir que, par exemple, pour soigner la tuberculose, il n'y a pas un traitement. Il y a de multiples traitements suivant les régions, suivant les thérapeutes. Et ils savent soigner les hépatites. Nous avions un spécialiste qui s'appelait Silla, qui soignait remarquablement bien. Un autre qui était très très fort en gynécologie, très très fort pour la stérilité, pour la drépanocytose, bref, pour toutes les maladies de médecine générale. Alors évidemment, en médecine africaine, la chirurgie n'est pas très développée. On sait réduire les fractures, on sait faire un certain nombre de choses, mais il faut savoir que certains traitements médicaux évitent les opérations que l'on fait en Occident. Donc, j'ai découvert avec stupéfaction et admiration et respect le savoir immense que détient l'Afrique, mais que l'Occident ignore. Pourquoi l'Occident l'ignore? Parce que d'abord, l'Afrique est un continent secret. On ne met pas le savoir sur la place publique. de savoir se donne à des personnes qui le méritent, qui en feront bon usage. On ne le donne pas à n'importe qui en ferait n'importe quoi, et surtout, on ne le donne pas maintenant à des personnes qui iraient vendre ça à des firmes qui ne cherchent que de l'argent. Donc, un grand savoir transmis avec beaucoup de sagesse, et je dois dire aussi beaucoup de sévérité, parce que les maîtres sont très exigeants sur leurs disciples. J'ai évidemment bénéficié d'un régime particulier, mais Dadi Diallo était un maître très exigeant. Mais je lui dois beaucoup. Il m'a montré une autre façon de soigner, une autre façon de regarder l'être humain, une autre façon de regarder l'univers, et il m'a montré le sens du sacré qui est dans le cœur de l'Afrique. Et la médecine que j'ai pratiquée était une médecine qui unissait le corps, l'âme, l'esprit, et où la présence de l'invisible, la présence de Dieu, la présence d'Allah, était avec nous. Donc nous avons travaillé pour sauver les malades, qui étaient dans un très grave état. Nous avons travaillé avec dans le cœur un sentiment de compassion, un sentiment de service. C'était une médecine humaine. Et je dois dire que les années que j'ai passées à Cœur Massar, à soigner les malades, après avoir fait moi-même des médicaments, ce sont des années qui laissent des souvenirs inoubliables. Et puis, il faut ajouter que la thérapeutique africaine n'est pas figée. Il y a évidemment des traitements qui datent depuis des siècles et qui sont transmis et qui sont très bons, éprouvés par le temps. Mais on peut avoir beaucoup d'initiatives. Et mon maître m'avait dit un jour, quand j'étais encore tout à fait débutante, il voyait que j'avais peur de soigner, que j'avais peur de me tromper dans les médicaments. Et il m'avait dit, soignez sans peur. Et vous verrez qu'un jour, vous serez capable d'inventer. Moi, j'avais dressé l'oreille, capable d'inventer, alors que j'avais tellement peur de me tromper. Eh bien, il avait raison. À partir du moment où l'on devient suffisamment formé, eh bien, l'initiative vous vient du cœur, de l'intelligence, de l'expérience. Et je dois le dire, moi-même, j'ai pu donner de nouveaux traitements de la tuberculose, par exemple, des traitements nouveaux pour les rhumatismes, des traitements pour la dépression. Et puis, j'ajouterai que l'initiative, nous l'avons prise pour une maladie qui s'appelle le sida. Quand les premiers malades sont arrivés, j'avais dit au thérapeute, on ne va pas les renvoyer les mains vides. Avec tout le savoir que vous avez et ce que j'ai appris, nous allons faire un petit colloque entre nous et nous allons décider de ce que l'on peut essayer. Bien sûr, on ne savait pas au début si ça marcherait ou pas. On a tâtonné et finalement, nous avons mis au point des formules qui ont sauvé un certain nombre de malades qui étaient pourtant déjà bien atteints. Donc, ce qu'il y a dans les médecines traditionnelles, c'est que le thérapeute n'est pas sous l'emprise et la tutelle d'une industrie quelconque. Le thérapeute garde avec son intelligence toute son initiative et devant des situations inédites, nouvelles, il peut très bien inventer des traitements. Après quelques tâtonnements peut-être, mais il peut très bien mettre des traitements au point. On parle beaucoup d'initiation. C'est un très grand mot qui recouvre toutes sortes de choses, le meilleur et le pire. Je vais simplement parler de mon expérience personnelle. Lorsque Dadi Diallo, le grand maître qui a bien voulu m'accueillir en médecine africaine, m'a emmené pour la première fois en brousse, avec Yoruba, mon premier collaborateur, j'ai compris tout de suite ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Le disciple qui commence, qui ne sait rien, doit suivre le maître en silence, ne poser aucune question, attendre que le maître parle. Ensuite, le maître vous soumet à de rudes épreuves. Il vous emmène le matin à l'aube, avant l'aube, chercher des plantes. Il vous mène dans les endroits les plus pénibles, les plus rocailleux, les plus sableux où c'est fatigant à marcher. Et vous travaillez sans parler, sans manger, sans boire, quelquefois jusqu'à une heure avancée de l'après-midi. Donc, il y a toute une formation morale qui est à respecter. Le silence d'abord, et puis la dureté du travail. Cueillir les plantes, ce n'est pas facile. Surtout au Sénégal, la plupart sont très épineuses. Il faut apprendre à les couper sans se piquer continuellement. On y arrive, on arrive à devenir très adroit. Donc, c'est une initiation où il y a fatigue physique et où il y a le respect du maître et le respect de la nature. Voilà comment a été l'initiation pour moi-même. Le disciple n'aura le droit de parler que lorsqu'il aura atteint une certaine maturité, un certain nombre de connaissances, mais pas avant. Et le respect du maître est une chose absolument indispensable. Si vous manquiez de respect, le maître vous renverrait. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Nous étions en train de récolter des plantes avec Yoruba et Dabdi Diallo, qui était très âgé, était allé se reposer, s'allonger sous un arbre en fermant les yeux. Nous pensions qu'il dormait et que c'était bien légitime, vu son grand âge, il avait déjà plus de 88 ans. Il dormait. En réalité, il nous observait avec les yeux mi-clos. Et lorsque nous sommes revenus avec nos paniers remplis, il nous a dit ceci. « Je vous ai observé en train de récolter. Si j'avais observé chez vous le moindre irrespect pour les plantes, je cessais immédiatement mon enseignement. » Donc, il faisait semblant de dormir. En réalité, il nous mettait à l'épreuve. Mais comme Yoruba et moi, nous aimons les plantes, que nous avions envie de sauver les malades, eh bien, il n'y avait pas de danger que nous prenions les plantes sans respect. Mais il avait dit ceci, « Si vous n'aviez pas manifesté du respect envers les plantes, je cessais immédiatement mon enseignement. » Vous voyez, les maîtres sont très sévères. On ne se permet pas avec un maître ce qu'on se permettrait peut-être avec un professeur d'université. Il y a, comment dirais-je, une hiérarchie à respecter. Ce sont des sages, ils ont eux-mêmes gravi tous les échelons, passé toutes les épreuves, et ils sont en droit de nous demander, pour devenir de bons thérapeutes, eh bien de faire beaucoup d'efforts et de manifester les vertus qui sont nécessaires. Le disciple doit suivre son maître, mais tout dépend du maître qui va l'enseigner. Si c'est un maître qui connaît les traitements de quelques maladies, ceux qui sont à la base de la pyramide, comme je disais hier, l'enseignement peut durer 2, 3, 4, 5 ans. Mais lorsqu'on veut être, et que l'on peut être, un thérapeute de très haut niveau, il faut au moins 15 ans de pratique avec le maître, 15 ans d'enseignement, et ensuite on se perfectionne avec l'expérience au cours de la vie. Mais un très bon thérapeute, très intelligent et très doué pour l'art médical, il faut au moins 15 ans. En Occident, l'exercice de la médecine, l'exercice pour la santé est partagé. Vous avez les médecins et vous avez les pharmaciens. Mais en Afrique, où j'ai travaillé, le thérapeute est tout à la fois. Il faut qu'il connaisse toutes les plantes, qu'il connaisse les endroits où on peut les trouver, qu'il connaisse bien les époques où on peut les récolter, donc les cycles de végétation. Ensuite, il faut qu'il devienne un très bon pharmacien, savoir préparer une multitude de médicaments, et également savoir improviser devant un patient pour compléter un traitement standard par une prescription personnalisée. Donc, déjà, disons un bon botaniste, connaître bien les plantes. Être un excellent pharmacien, et ça demande une grande habitude et un grand travail. Et ensuite, eh bien, il faut savoir examiner les malades et il faut connaître la nature des maladies. Il faut savoir faire des diagnostics. Évidemment, ils ne vont pas donner les mêmes noms que nous aux maladies. Ils ne vont pas faire leur diagnostic comme nous. Mais j'étais étonnée de voir que pour les maladies les plus graves, par exemple des scléroses en plaques, des myasthénies, j'ai vu des thérapeutes les soigner remarquablement bien. Donc, un thérapeute, comme je l'ai vu au Sénégal, doit être connaisseur des plantes, très bon pharmacien et très bon médecin. Alors, il faut quand même ajouter quelque chose. Tous les thérapeutes africains n'ont pas la même valeur. Il y a une hiérarchie comme partout, et on peut la représenter par une pyramide. À la base de la pyramide, vous avez une multitude de thérapeutes qui ont un certain nombre de connaissances et qui peuvent rendre service pour un nombre plus ou moins grand de maladies ou plus ou moins petit de maladies. Et à mesure que vous montez vers le sommet de la pyramide, vous avez des thérapeutes de plus en plus savants. Et quand vous arrivez au sommet, vous vous trouvez devant des hommes ou des femmes qui ont un savoir que je qualifierais d'inépuisable. Et j'ai eu la chance de travailler avec cinq grands maîtres qui étaient au sommet de la pyramide. Et c'est pour ça que j'ai eu cette vision globale de la richesse de la médecine africaine. J'aurais travaillé avec la base, j'aurais dit oui, c'est bien, mais ayant eu cette chance d'avoir cinq grands maîtres, il m'a été possible d'avoir une vision totale, aussi totale que possible, de la richesse thérapeutique de la médecine pratiquée au Sénégal. Alors, on est toujours en train de parler des thérapeutes hommes, mais il faut ajouter que l'Afrique a aussi des thérapeutes femmes, et des femmes dont certaines sont éminentes. J'en ai rencontré quelques-unes, mais on a toujours l'habitude de parler surtout des hommes, qu'on m'excuse de dire ceci, et il y a des femmes éminentes. Et j'ai moi-même été soignée par la mère d'un des thérapeutes de chez nous, qui était une femme de grand savoir. Donc, il y a en Afrique une somme extraordinaire de richesses thérapeutiques. Je parle du Sénégal. Mais il y a combien de pays en Afrique occidentale seulement? Le Mali est très riche. Les Dogons ont des thérapeutes très réputés. Et les autres pays africains ont également leurs thérapeutes réputés. Et il serait temps que l'Afrique se réveille.